nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, nous vous emmenons au Mozambique et à Madagascar dans les coulisses d'une grande expédition naturaliste qui se déroule d'avril 2009 à juin 2010. Alors pourquoi une expédition naturaliste ? Eh bien, figurez-vous que de nombreuses espèces inconnues sont susceptibles de pointer leur nez du côté des forêts côtières du Mozambique ainsi que dans les eaux froides de l'extrême sud de Madagascar. Les scientifiques affirment qu'il reste sans doute aujourd'hui entre 8 et 30 millions d'espèces à découvrir, dont de nombreuses espèces déjà en voie d'extinction. Deux Français mènent cette opération de front, Philippe Bauchet et Olivier Pascal. Philippe Bauchet est avec nous pour nous présenter tout l'intérêt de cette opération. Philippe Bauchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission Grande Expédition Naturaliste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de la systématique de l'histoire naturelle et de la conservation des mollusques, et vous avez déjà à votre actif, déjà décrit, donc plus de 500 nouvelles espèces de mollusques. Dans cette expédition, vous vous occupez de l'exploration des eaux froides du sud de Madagascar, comme je viens de le présenter à l'instant, du côté de Fort Dauphin. Et je crois que vous avez déjà récolté des spécimens de coquillages jusqu'à présent inconnus au bataillon. Comment explique-t-on que l'on connaisse encore assez peu ces fonds marins, Philippe Bauchet ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les naturalistes n'ont jamais cessé de faire des expéditions. Que la découverte, alors avant que le mot biodiversité existe, on va dire la découverte des faunes et des flores est aussi ancienne que la systématique. En gros, ça fait 250 ans. Que les naturalistes parcourent le monde, collectent des échantillons, les étudient dans leurs instituts et dans leurs laboratoires. Alors classiquement, les instituts et les laboratoires où on étudie les faunes et les flores sont dans les pays développés, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, c'est-à-dire l'Europe, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Enfin, en gros, on n'est pas sur les régions tropicales. Donc il y a un déficit de connaissances énorme sur les régions tropicales et je dirais une quantité phénoménale d'espèces qui restent à découvrir encore dans ces régions du monde.
Et des régions qui, j'imagine, par le climat, peut-être peut favoriser l'éclosion de nouvelles espèces.
Oui, alors les régions tropicales sont à la fois un déficit de connaissances et d'autre part le principal réservoir. Il y a plus d'espèces sous les tropiques que dans les régions tempérées. Donc en gros, les deux facteurs font que c'est principalement dans les latitudes tropicales que se font les principales découvertes.
Et ce qui explique que la raison pour laquelle à Madagascar, on parle beaucoup d'espèces endémiques qui n'existent pas ailleurs.
Bien sûr, bien sûr.
Et de même, j'imagine, pour le Mozambique. Quand on parle de nouvelles espèces, j'imagine que pour le Mozambique, puisqu'on parle des forêts qui se trouvent le long du littoral du Mozambique, on ne va pas à la recherche de nouveaux mammifères, mais plutôt à la recherche de flores et d'insectes.
Oui, effectivement. Aujourd'hui, bon an, mal an, les scientifiques continuent à découvrir et à nommer à peu près 16 000 nouvelles espèces par an. Alors c'est énorme et en même temps c'est très peu, puisque effectivement on pense qu'il en reste, comme vous l'avez dit, 8 à 30 millions, c'est le flou qui caractérise l'état de nos connaissances. Donc ça veut dire qu'à ce rythme-là, à 16 000 par an, ce qui est beaucoup, il faudra quand même plusieurs centaines d'années pour achever l'inventaire. Or, dans le même temps, on pense que le tiers, le quart ou la moitié de la biodiversité pourrait avoir disparu d'ici le milieu ou la fin du siècle. Donc on a là tous les enjeux de l'exploration de la biodiversité, de la description des espèces au début du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois pris conscience qu'on a encore les trois quarts du boulot à faire, mais que pour le coup, on n'a pas toute la vie devant nous pour le faire.
Votre terrain de jeu à vous, Philippe Bauchet, c'est plutôt les fonds marins, notamment les fonds, on va dire, assez profonds, fonds marins profonds. Quel va être l'intérêt de travailler dans le sud de Madagascar ?
Alors, le sud de Madagascar, je dirais que les endroits dans le monde où il y aurait, où il faudrait faire des expéditions, je dirais, se comptent par dizaines et par centaines. Le choix de Mozambique-Madagascar répond à la fois à des priorités, des considérations d'ordre purement scientifique, effectivement, des présomptions de découverte à venir, et puis, je dirais, un certain nombre de considérations géopolitiques, des facilités ou non de monter des partenariats, facilités ou non de trouver des financements. Donc, dans ce grand cadre général-là, le sud de Madagascar était sur mon radar depuis un certain temps. on va dire, en gros depuis une quinzaine d'années, les collectionneurs de coquillages, les amateurs de coquillages, qui sont... Alors quand on parle d'amateurs de coquillages, je veux dire, c'est pas le coquillage sur votre dessus de cheminée, souvenir de Saint-Malo. C'est, on va dire, c'est des amateurs naturalistes, des amateurs éclairés. On a découvert, dans l'extrême sud de Madagascar, dans la zone tout à fait côtière, on a découvert ces 15 dernières années de nouvelles espèces de cônes, de porcelaine, de volutes. Alors c'est des groupes de coquillages collectionnés qui sont considérés comme étant relativement bien connus. En gros, c'est les mammifères et les oiseaux des mollusques. Et trouver de nouvelles espèces côtières dans ces groupes-là, ça commence à devenir rare dans le monde. Et donc là, le fait qu'on ait trouvé tout ça de façon fortuite, en fait, c'est des sous-produits de la pêche à la langouste, localement, voire même des coquillages rejetés en laisse de mer, enfin, etc. Bon, le fait qu'on ait trouvé tout ça montre que c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a présomption de grandes quantités d'espèces inconnues dans tous les groupes. Alors, on a fait une petite mission de repérage. Pierre Labout et Lynn Le Gall ont fait au mois d'octobre-novembre dernier, qui a été moyennement réussi pour les raisons météo. Ils sont revenus en ayant vu des poissons, des algues, des étoiles de mer. Jamais vu.
Qu'ils ne connaissaient pas.
Qu'ils ne connaissaient pas. Alors, c'est pas des spécialistes d'étoiles de mer et tout, mais enfin, en gros... Il y a des présomptions de découvertes dans tous les groupes, zoologiques et botaniques marins. Quoi.
Alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Vous, on a bien compris, vous êtes sur le bateau, vous encadrez les équipes. Est-ce que vous plongez aussi pour partir à la découverte de ces nouvelles espèces?
Je ne plonge plus. Je ne plonge plus parce que d'une part, les contraintes, on va dire, de management d'une grande expédition font que le management de l'expédition est un boulot à plein temps.
Vous encadrez combien de personnes?
Je dirais que ça dépend des expéditions, mais en gros, entre 30 et 70. Quoi. Donc c'est une succession, je veux dire, malheureusement. C'est-à-dire, c'est l'exaltation du terrain, ça vient, je dirais, une fois que c'est terminé ou avant. Mais pendant, je dirais, c'est beaucoup de stress et beaucoup de travail de décision constante sur le programme de travail, les horaires. Dès que vous êtes un groupe de 30 ou 50 personnes, les moindres retards, les moindres accros, ça crée du dysfonctionnement, de la mauvaise humeur. Le boulot du chef de mission, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille avec efficacité et bonne humeur.
Donc, vous ne plongez pas, mais donc, vous avez des gens qui vous accompagnent.
Alors, bien sûr. Donc, une expédition comme celle-là, ce qu'on emmène sur le terrain, c'est pas les meilleurs spécialistes de tel ou tel groupe d'animaux ou de plantes. Bien sûr, ces gens-là en font partie de l'expédition aussi. Mais en gros, le but de la partie terrain, c'est quand même d'avoir le meilleur échantillonnage possible. Et ce meilleur échantillonnage possible fait appel à des gens qui vont être éventuellement des plongeurs de haut niveau, mais qui professionnellement ne sont pas des scientifiques et qui ont l'habitude de nous accompagner, de faire partie de nos expéditions, qui savent mettre en œuvre nos méthodes de récolte et qui sont ravis, je dirais, de mettre à notre disposition leur savoir-faire. Et en retour, eux ont l'exaltation de participer à une grande expédition scientifique.
Précisons que cette expédition, qui se déroule pendant pratiquement un an, est en partenariat avec d'autres organismes. Ce n'est pas une expédition franco-française.
Non, j'aime dire que c'est une expédition, on va dire, à leadership français, mais c'est une expédition très internationale. On aura des participants au total de 15 à 20 pays. Donc des pays européens.
Espagne, la Grande-Bretagne.
Oui, la Suède, l'Allemagne... etc., l'Italie, mais également régionalement, des participants sud-africains, des participants de nos pays hôtes, bien sûr, de Madagascar et du Mozambique. Et puis, de notre expédition passée en Asie du Sud-Est et dans le sud-ouest du Pacifique, on a un fort partenariat avec Chinois de Singapour, Chinois de Taïwan, dans lesquels il y a de très très bons systématiciens, très bonnes personnes sur le terrain. Voilà.
Et sur le terrain, donc, vous expliquez, pour présenter cette expédition, que parmi les partenaires qui pouvaient vous aider, il y avait aussi une entreprise de crevettiers, Unima, pour Madagascar.
Oui, alors effectivement, on a devant nous, au mois d'avril-mai l'année prochaine, il y a cette expédition côtière dans les eaux froides du sud de Madagascar. Mais nous avons déjà réalisé au mois d'avril cette année dans le canal du Mozambique, côté Mozambique, une petite expédition offshore sur le navire Visconde de Deza de l'Institut espagnol d'océanographie. Et au mois de juin-juillet de cette année, on a affrété le Miriki, qui était un crevettier de la société Unima, qu'on a un petit peu transformé pour nos besoins. En gros, ce crevettier, normalement, travaille commercialement dans les tout petits fonds, entre 10 et 30 mètres. Et on l'a un petit peu modifié pour pouvoir... On a travaillé jusqu'à 1000 mètres, donc entre 100 et 1000 mètres de profondeur. Donc avec, en partenariat avec la société Unima, qui par ailleurs elle a des grandes fermes de crevettes
à Madagascar.
À Madagascar, oui.
Avec quel financement vous fonctionnez ? Quelles sont vos ressources ?
Les expéditions de cette nature, il y a beaucoup de besoins. Ce n'est pas avec l'argent public de la recherche que se fait l'expédition. L'argent public de la recherche, on va dire, il sert aux infrastructures des laboratoires, de l'exploitation des résultats après l'expédition. Et l'expédition elle-même est rendue possible par le soutien, en gros, de trois grandes fondations. La fondation Prince Albert II de Monaco, la fondation Total pour la biodiversité et la mer, et la fondation Stavros Niarchos, qui était déjà nos partenaires pour l'expédition Santo 2006, il y a 3 ans. Il se rajoute après 2 autres fondations qui interviennent avec des nombres à 5 chiffres, comme on dit, donc à des niveaux de financement plus faibles, mais pour des niveaux un peu plus pointus. Donc la fondation Ars Cutoli, qui est une fondation de l'Institut de France, intervient pour la partie, le module zoologique de l'expédition terrestre forêt sèche Madagascar. Et puis une autre petite fondation américaine, la fondation Lounsbery, qui finance, en gros, rend possible, on va dire, le partenariat régional avec l'Afrique du Sud et la participation des Malgaches.
Le public qui s'intéresse à cette expédition, et j'espère que ce public sera nombreux, peut s'informer au jour après jour des avancées, des recherches.
Alors, jour après jour, idéalement.
Peut-être pas.
Jour après jour, idéalement, mais les difficultés de communication feront que, je pense, la construction du site web avancera surtout au retour de l'expédition.
Donc le site qui s'appelle La Planète Revisitée.
Oui.
La Planète Revisitée, avec donc des articles qui, sporadiquement, de temps en temps, mettra en ligne
les dernières recherches.
Le
plus souvent possible.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors, pour les mois à venir ?
De la bonne météo. Je dirais que le principal risque d'échec de l'expédition Sud-Madagascar, c'est la mauvaise météo. C'est une région qui est très peu connue, à la fois parce qu'elle est isolée, avec peu d'infrastructures, encore que maintenant, Fort Dauphin a beaucoup changé ces 5 dernières années à cause du développement d'un gros projet minier dans la région. Mais à part ça, dès que vous sortez de Fort Dauphin, il n'y a pas d'infrastructure. Et au point de vue météo, vous terminez au mois de mars la saison cyclonique, à risque cyclonique, et au mois de juin, vous démarrez la saison des alizés. Donc en gros, il y a une fenêtre de tir météo qui s'étend d'avril à mi-juin à peu près.
Et une bonne météo politique ?
Alors la bonne météo politique, faut nous la souhaiter aussi. L'expédition était initialement prévue en avril-mai de cette année, 2009. Et quand les événements politiques ont éclaté à Tananarive fin janvier, on a commencé par se mettre un petit peu en stand-by et puis on n'a pas pu tenir. Donc on l'a reporté d'un an, puisque il n'y a pas d'autre fenêtre de tir météo. Donc le reporter, c'était forcément d'un an et pas de 6 mois.
Merci Philippe Bauchet. Vous repartez, j'imagine, dans très peu de temps du côté de Madagascar ?
Alors, dirais qu'une expédition de cette envergure-là, il y a effectivement régulièrement des tournées un petit peu de logistique, d'entretien des relations administratives avec les décideurs du pays hôte. Donc oui, je vais repartir.
Eh bien, on vous souhaite bon vent, bonne récolte de coquillages, d'algues, peut-être aussi
de
poissons.
De poissons, d'oursins, de crustacés.
Et pour les personnes donc, qui souhaitent s'informer régulièrement des avancées de vos recherches, que ce soit à Madagascar, on a parlé de Madagascar avec vous, puisque c'est vous qui gérez cette partie-là, ou du Mozambique, avec Olivier Pascal, votre confrère. Donc, ces auditeurs, ces internautes, ce public intéressé peut se renseigner sur le site laplanèterevisitée.org. Merci Philippe Bauchet, et donc à bientôt. J'espère pour refaire un point sur les récoltes.
Ok, merci.
Thank you.